franceinter.fr.
Il nous reste trois ans pour sauver la planète avant le sommet du G8 qui commence vendredi en Italie. Un groupe de diplomates et de scientifiques fait le point sur les efforts concrets à accomplir pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Au-delà de ces 3 ans, la face du monde sera irrémédiablement modifiée avec des conséquences certainement dramatiques. Hervé Le Treut, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes climatologue, membre de l'Académie des sciences. Et on va commenter avec vous cet édito paru dans la revue Nature et signé de la diplomate des Nations Unies, Karen Christiana Figueres. Que pensez-vous de cette démarche, de cet ultimatum, Hervé Le Treut, juste avant le G8?
Je pense que c'est utile de rappeler qu'effectivement, le temps s'écoule. Alors le chiffre de 3 est quelque chose d'un tout petit peu arbitraire. C'est peu d'années, en tout cas. On n'a pas toujours conscience du fait que ce qu'on voit aujourd'hui, le changement climatique, c'est le résultat des émissions du passé. Les émissions d'aujourd'hui vont créer une situation qu'on ne dominera pas, parce que tout simplement, les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère. Mmh. Et qu'on a déjà très largement engagé le futur. Alors il y a un moment où on aura engagé le futur de manière suffisamment forte pour ne plus avoir de chemin pour rester sous ces fameux 2 degrés qui sont la marge supérieure qu'on s'est donnée lors de l'accord de Paris.
Alors justement, vous parliez de ces 3 ans, de cette dernière limite. Comment ils sont calculés ici dans cet article ?
Alors c'est des calculs d'ordre de grandeur, et ces calculs d'ordre de grandeur, ils sont à prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire effectivement de donner un petit peu un sens aux échéances face auxquelles on est. Aujourd'hui, si on essaie de calculer, on a une quantité de carbone maximale qu'on peut émettre dans l'atmosphère si on veut ne pas dépasser quelque part plus tard dans le siècle ce seuil des 2 degrés de réchauffement. De cette quantité de carbone, il y a une grosse partie qu'on a déjà émise. Mmh. Donc il nous reste une plus petite partie. Si on prend ce reste à émettre auquel on a droit et qu'on le divise aujourd'hui par ce qu'on émet annuellement, alors c'est toujours des ordres de grandeur, on est à une vingtaine d'années à peu près. Mais si on attendait de faire quelque chose de non progressif, c'est-à-dire d'émettre pendant 20 ans, puis on s'arrête d'un coup, ça veut dire que dans 20 ans, il faudrait arrêter tout ce qui est charbon, pétrole, gaz naturel. Donc, là, ce que j'essaie de calculer cette estimation, c'est une sorte de transition. Cette transition, elle nous oblige à réagir avec des durées qui se chiffrent en années, plus en décennies. C'est-à-dire qu'on doit effectivement avoir enclenché quelque chose de fort dans les années qui viennent. Sinon, on va se trouver effectivement confronté tôt ou tard avec l'impossibilité d'empêcher le climat plus tard dans le siècle d'atteindre les 2 degrés de réchauffement.
Ça veut dire que quand même ces 2 degrés, c'est une cible atteignable, parce que plusieurs fois des climatologues à cette antenne nous ont dit maintenant on pense 3 degrés, on a oublié les 2 degrés.
Le chemin est de plus en plus étroit, donc après on peut juger si c'est atteignable ou pas selon la foi que l'on a entre la capacité de réaction de nos sociétés. Je pense que ce qui sera clé, c'est effectivement la capacité d'une part de mobiliser fortement tous les secteurs de la société face à ces problèmes-là, ce qui veut dire avoir aussi une manière appropriée de transmettre ces messages climatiques. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont vus comme une opportunité par beaucoup de gens. Provoquer des transitions, créer des nouveaux emplois, et puis aussi comme une crainte, comme un facteur d'angoisse pour beaucoup d'autres gens qui disent, ma foi, s'il y a des emplois qui sont créés, il y en aura qui seront aussi perdus, et c'est peut-être les miens. Mmh. Donc il y a une appréhension face à cette... Et ce qu'on finalement on maîtrise le moins, c'est la réaction des sociétés face à ces enjeux. Mais... il reste effectivement un chemin, d'autant plus qu'on ne sait pas avec une précision absolue ce que va faire la planète Terre. On a été cité dans les grandes lignes, et on voit déjà le changement climatique se développer selon ces grandes lignes-là. Ensuite, on peut avoir quelques bonnes surprises, on peut avoir aussi des mauvaises surprises, donc il faut essayer de faire au mieux tant qu'on a encore un chemin qui est ouvert.
Oui. Comment justement vous appréhendez, vous sentez-vous la réaction des sociétés par rapport à cette problématique aujourd'hui, Hervé Le Treut ?
Ça, c'est très difficile parce que moi, je suis climatologue dans un monde de climatologues. Donc, j'essaie de faire des exposés à droite, à gauche, de me confronter avec d'autres personnes. Je prétends pas avoir une exposition à toutes les strates de la société. Je crois qu'il y a effectivement un mouvement de prise de conscience qui est assez large. Le gros problème, c'est qu'on est confronté maintenant à une horloge qui fait tic-tac. Enfin, le problème, c'est qu'on a déjà émis beaucoup de gaz à effet de serre. Mmh. Comme je le disais, on a déjà beaucoup engagé le futur. On a créé une sorte de dette climatique. Et il y a un aspect de course contre la montre, de course contre l'horloge, et qui rend les choses plus difficiles. Si on n'avait pas cet aspect de course contre l'horloge, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens.
C'est vrai, oui.
Beaucoup de choses qui sont très positives. On est confronté à cette difficulté du temps qui passe.
Mais est-ce qu'on n'a pas justement besoin de cette horloge, d'objectifs précis? Parce que c'est ce qui est énoncé dans l'article, par exemple. On nous dit, d'ici 2020, 30% d'électricité mondiale doit être issue du renouvelable et toutes les centrales à charbon doivent être fermées. Est-ce qu'on ne doit pas se fixer des objectifs mondiaux comme ceux qui sont énoncés ici?
Si, je pense que c'est quelque chose de tout à fait bénéfique. On a peut-être trop... énoncer d'objectifs de fin de siècle qui sont très difficiles à développer ensuite selon un rétro-planning qui devient très incertain quand on s'approche du présent. Donc là, il faut effectivement, je pense que se donner des dates pour les points d'inflexion des émissions, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles vont commencer à diminuer vraiment. Là, il y a un frémissement qui laisse sans penser qu'elles n'ont peut-être pas beaucoup augmenté ces dernières années. Mais donc, on a besoin d'objectifs de relativement court terme, je pense. Mais autrement, les choses sont très difficiles
Quel est l'objectif prioritaire pour vous, justement, aujourd'hui, Hervé Le Trotte? S'il fallait vraiment choisir un prioritaire, efficace en tout cas, et qui mobilise le plus de gens possible, ce serait lequel?
Il y a beaucoup de choses. Enfin, je crois que c'était une question difficile parce que, de fait, il n'y a pas une solution. Il y a un ensemble de solutions. D'ailleurs, dans l'article, même en essayant de regrouper autour de 6 initiatives, au moins qu'il faut mettre en jeu les sociétés à tout leur niveau étatique, subétatique, régional, municipal. Enfin, les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement qui touche largement la société. De ce point de vue-là, je pense qu'une des priorités, c'est certainement l'éducation. Je crois que tant qu'on aura des votes qui sont contraires à ces problématiques-là, dans des pays aussi importants que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, et on semble penser qu'il n'y avait pas l'unanimité autour de ces problèmes-là en France non plus, je crois qu'on sera en difficulté par rapport aux transitions qui s'annoncent, qui sont énormes. Aujourd'hui, on a 80% de notre énergie, qui est mondialement un peu plus, qui est liée au charbon, au pétrole, au gaz naturel. Si on dit qu'on doit passer complètement à une société sans émissions de carbone dans 60 ans, ça veut dire une transition énorme vers des énergies qui aujourd'hui sont faibles. Le solaire plus l'éolien, c'est peut-être 1% à peu près en ordre de grandeur de l'usage actuel de l'énergie à l'échelle mondiale.
Alors, l'article sonne comme un ultimatum. Pourtant, il est très optimiste, je trouve, dans sa construction. Est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste? On peut encore être optimiste?
Et audacieux.
Et audacieux, comme c'est dit dans la dernière phrase.
Je pense que audacieux, certainement. Et alors, le mot optimisme, bon, c'est très connoté culturellement. Je pense qu'on aime bien faire montre d'optimisme dans certaines sociétés, moins dans d'autres. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir une réflexion sur ces enjeux, parce qu'ils sont pas simples. Je pense que le chemin qui permet à la fois de rester dans un monde juste, dans un monde juste socialement, juste politiquement, dans un juste, je dirais, au niveau international, dans un monde qui préserve la biodiversité, puis dans un monde qui préserve son climat, et c'est un chemin qui est étroit, qui demande à être réfléchi, à être débattu. Et je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment passer à cette phase de l'action, qui est aussi une phase de la complexité. Pour moi, c'est une des difficultés qu'on a eues ces dernières années, c'est ne pas voir que passer d'un signal d'alerte par rapport au changement climatique à un signal où on prend des mesures, ça veut dire se confronter collectivement à des espaces de complexité. On a des choix qu'il faut trancher et qu'il faut trancher collectivement.
Merci en tout cas Hervé Le Treut pour votre analyse suite à cet édito donc publié dans la revue Nature. Merci Axel et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Suisse qui installe le premier aspirateur industriel à CO2, une véritable usine à recycler l'air de l'atmosphère pour en extraire le CO2 et le revendre. Selon les ingénieurs, l'installation devrait permettre de récupérer 900 tonnes de gaz par an. À titre de comparaison, il faudrait 250 000 de ces aspirateurs pour faire baisser les 1% des émissions mondiales de CO2. Le gaz d'aspirateur géant est récupéré, envoyé via des tuyaux vers des plantations de tomates ou de concombres pour les aider à grandir. Le projet testé pour une période de 3 ans va également, dès l'année prochaine, tenter une méthode d'enfouissement des gaz souterrains pour parvenir à des émissions négatives de CO2. Le macroquenya, cet animal préhistorique étrange, trouve enfin sa place dans la classification du règne animal. Son squelette, découvert pour la première fois par Charles Darwin, restait un casse-tête sans nom pour les scientifiques. Avec son air de chameau sans bosse, ses pieds de rhinocéros et sa trompe d'éléphant version miniature, il était impossible de le classer grâce à ses critères anatomiques. Il fallait donc attendre de trouver un morceau de son ADN exploitable, une extraction difficile que viennent de réaliser des scientifiques allemands dans des restes fossiles découverts au Chili. Le macroquenya rejoint donc les chevaux, les tapirs et les rhinocéros dans le grand groupe des périssodactyles dont il aurait divergé il y a 66 millions d'années. Et puis le cacatoès a un sens du rythme très similaire à celui de l'humain. Cette particularité bien connue des possesseurs de cacatoès et à l'origine de nombreuses vidéos sur internet vient d'être étudiée dans la nature. En Australie du Nord, les mâles cacatoès armés de petits bâtons tapent des rythmiques régulières sur des morceaux de bois morts pour attirer les femelles aux alentours. En étudiant les enregistrements de ces batucadas de la canopée, eh bien les chercheurs montrent que la régularité rythmique des cacatoès et les phrasés qu'ils produisent propres à chaque individu sont impressionnants. Ils sont par exemple bien plus précis que les chimpanzés qui aussi tapent sur des morceaux de bois mais sans aucun sens du tempo. Une vidéo de ces cacatoès en plein show est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré.